Il est 21h à Paris, 19h en temps universel. Vous écoutez RFI.
Sophie Pouzrat.
À la une de cette édition, nous serons au Festival de Cannes qui prend fin ce soir avec la révélation de la Palme d'Or, prix emblématique de l'événement, décerné au réalisateur dissident iranien Jafar Panahi pour son film Un simple accident. Nous reviendrons aussi sur la deuxième phase de cet échange record de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, 1000 prisonniers de chaque camp au total. Un échange qui se déroule alors que de nouvelles frappes russes ont touché Kiev ce samedi matin. À la une également, en Équateur, le Congrès a investi le président Daniel Noboa ce samedi pour un mandat de 4 ans. Les électeurs attendent des résultats dans la lutte contre la violence et la corruption. Et puis en football, le Paris Saint-Germain affronte Reims en finale de la Coupe de France ce soir. La rencontre vient de démarrer au Stade de France à Paris. Direction Cannes pour démarrer ce journal pour la dernière soirée du festival. Le rendez-vous international du monde du cinéma s'achève ce samedi soir en dévoilant son palmarès. Sophie Torlotin, vous êtes avec nous en direct depuis Cannes. Et c'est le réalisateur iranien Jafar Panahi qui remporte la Palme d'Or avec son film Un simple accident.
Oui, le réalisateur de 64 ans qui a connu la prison à deux reprises a tourné Un simple accident dans la clandestinité. Simple dans sa forme, pour des raisons évidentes de contraintes de tournage, ce brûlot politique qui questionne le sens de la justice et la vengeance face à l'arbitraire avait bouleversé les festivaliers ici. Le Grand Prix, la Palme d'Argent, échoit au Norvégien Joachim Trier pour Sentimental Value, un film sur la famille, les traumas que l'on transmet et le cinéma qui répond. La politique et le cinéma, il en est également question dans L'Agent secret, une ample fresque de Kleber Mendoza Filho, prix de la mise en scène et prix d'interprétation masculine pour Wagner Moura, touchant en universitaire menacé de mort pendant la dictature militaire au Brésil. C'est une jeune femme de 23 ans qui reçoit le prix d'interprétation féminine, Nadia Meliti, adolescente musulmane pratiquante, qui se découvre homosexuelle dans La petite dernière d'Avzia Herzi. Les frères Dardenne, qui ont déjà tout gagné ici, dont deux palmes d'or, repartent avec un prix du scénario pour Jeune mère. Et puis deux films se partagent ex aequo le prix du jury, Sirat d'Oliver Lacks et Sound of Falling de Masha Chilinsky.
Sophie Torlotin en direct depuis Cannes, dont le festival aurait été marqué par la situation géopolitique, notamment en Gaza. La défense civile palestinienne déclare que 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens ont été tués hier à Khan Younes dans des nouvelles frappes israéliennes. On le rappelle, l'armée israélienne a intensifié depuis mi-mai sa campagne aérienne et terrestre dans l'enclave, où les quelques 2 millions d'habitants sont confrontés à de graves pénuries d'eau, de nourriture et de médicaments. Autre conflit qui se poursuit, celui en Ukraine, où une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés tôt ce samedi matin. Elle est arrivée quelques heures avant la deuxième phase prévue d'un échange record de prisonniers, au total 1000 de chaque camp. C'est le plus grand échange de prisonniers depuis le début du conflit. Il a débuté hier, s'achèvera demain. Et la deuxième phase, qui a eu lieu ce samedi, a permis le rapatriement de 307 détenus ukrainiens pour autant de Russes. Julien Chavanne.
Plus de 600 libérations depuis ce matin. Drapeaux ukrainiens sur le dos, amaigris, en larmes. Des photos publiées sur le compte X du président ukrainien Volodymyr Zelensky montrent une partie des 307 prisonniers ukrainiens à leur descente du bus en Ukraine. C'est le seul résultat concret pour l'instant des discussions qui se sont tenues en Turquie la semaine dernière entre des représentants des deux pays. Mais comme à chaque rapatriement d'enfants retenus en Russie ou chaque échange de prisonniers, ces négociations parallèles restent sans effet sur les combats. Aucun cessez-le-feu n'est en vue. Ce samedi matin, une attaque massive de drones et de missiles russes sur Kiev a fait au moins 15 blessés. Des explosions ont résonné toute la nuit dans la capitale. Des incendies, des chutes de débris ont frappé des immeubles dans plusieurs quartiers de la ville. Seules des sanctions supplémentaires ciblant des secteurs clés de l'économie russe forceront Moscou à cesser le feu, a prévenu le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le réseau X.
Julien Chavanne. Et de son côté, Katerina Maternova, l'ambassadrice de l'UE en Ukraine, estime quant à elle que si quelqu'un a encore des doutes sur le fait que la Russie veut poursuivre la guerre, qui lisent les journaux. Fin de citation. La levée des sanctions américaines contre Damas est entrée en vigueur et le pouvoir syrien s'en félicite. La décision avait été prise par Donald Trump depuis Riyad lors de son voyage au Moyen-Orient il y a une dizaine de jours. Il avait rencontré Ahmad al-Shara, le nouveau président syrien qui entend relancer l'économie de son pays, dévasté par plus de 13 ans de guerre civile. En Équateur, après sa victoire lors de la récente présidentielle, Daniel Noboa a prêté serment ce samedi lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Près de 70 délégations ont participé à Quito à son investiture par le Congrès. Un nouveau mandat qui débute sous de bons auspices. Les précisions d'Éric Sanson à Quito.
Il y a un an, le président Noboa venait à peine de lancer un conflit interne armé contre des dizaines de groupes armés et mafias. Le pays était plongé dans des coupures d'électricité massives et l'opposition dominait l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le mouvement officialiste Action démocratique nationale domine le Congrès. Les coupures d'électricité ont été évitées. De nombreux électeurs, comme la musicienne Paulina Iniguez, attendent maintenant des résultats rapides, notamment dans la lutte contre la délinquance.
Je ne sais pas si on pourra éliminer complètement la violence, mais il faut diminuer le pouvoir des mafias qui s'infiltrent dans la justice, les entreprises et le monde politique.
Et les chiffres de cette année ne sont pas bons. De janvier à mars, 2361 homicides ont eu lieu, selon le ministère de l'Intérieur, 65% de plus que lors du premier trimestre 2024. Des chiffres que le président Noboa doit assumer, selon le politologue Gustavo Hisch.
Aujourd'hui, le président Noboa n'a plus d'excuses pour ne pas gouverner. Le gouvernement ne pourra pas accuser les gouvernements antérieurs, le boycott de l'Assemblée nationale, l'insécurité ou la fragmentation politique, car il a les mains libres.
Le président Noboa l'a d'ailleurs bien compris, lui qui attend l'approbation rapide de son projet de loi contre l'économie criminelle. Éric Sanson, Quito, RFI.
Dans l'actualité également, aux Émirats Arabes Unis, ce record de température enregistré au mois de mai, plus de 51 degrés Celsius. Le pays avait déjà connu le mois dernier une vague de chaleur inhabituelle pour la saison. Et en parallèle en Europe, une sécheresse jamais vue frappe depuis plusieurs semaines le nord de la France et du continent. Une situation d'autant plus étonnante que ces deux dernières années, on avait assisté à des pluies abondantes, voire des inondations dans ces mêmes régions. Alors comment adapter les cultures ? Serge Zaka est docteur en agroclimatologie, fondateur de la plateforme Agroclimat 2050. Et pour lui, la solution vient des sols. Écoutez.
On a eu une très forte sécheresse en 2022 et on a eu de très forts excès d'eau en 2023 et 2024. C'est-à-dire que le premier constat, c'est une forte variabilité des précipitations. C'est d'ailleurs une des conclusions du GIEC, c'est que la variabilité des précipitations entre années et entre saisons va devenir de plus en plus importante. On appelle ça une accélération de cycle de l'eau, hein, en fait, des excès et des déficits, pas d'intermédiaire. Il faut réagir sur les deux à la fois. Et il y a des techniques agricoles qui permettent de gérer les excès et le déficit. C'est toutes les techniques qui concernent notamment le sol. Un sol vivant, un sol moins labouré, un sol avec du couvert végétal tout le long de l'année est un sol qui peut mieux réagir quand il y a des excès, c'est-à-dire absorber l'eau plus rapidement, et mieux réagir quand il y a des déficits, c'est-à-dire restituer l'eau et mieux stocker l'eau dans son sol. Donc c'est vraiment le sol qui est important pour résoudre cette problématique d'excès de déficit.
Serge Zaka, docteur en agroclimatologie, fondateur de la plateforme Agroclimat 2050. Je vous en parlais dans les titres. En football, une première finale qui se dessine pour le Paris Saint-Germain avant celle de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan, prévue samedi prochain. Le PSG affronte Reims aujourd'hui en finale de la Coupe de France. Les Parisiens vont essayer de remporter un nouveau titre dans cette compétition, une perspective plus qu'envisageable. On retrouve Sofiane Amazio en direct du Stade de France. Sofiane, la rencontre a débuté il y a un peu moins de 10 minutes.
Exactement, bonsoir Sophie, 7ème minute de jeu ici au Stade de France entre le PSG et le Stade de Reims, toujours 0-0, mais comme attendu c'est bien le Paris Saint-Germain qui domine outrageusement ce début de match. À noter en tout début de rencontre cette occasion, on va dire, du latéral portugais Nuno Mendes qui s'est retrouvé face au but de Yevan Diouf, le gardien sénégalais de Reims, mais il a glissé, donc pas encore d'ouverture du score du Paris Saint-Germain, mais on les voit encore dominer à l'image de cette passe de Dembélé. On va suivre l'action, Hakimi qui se retrouve face au but qui crochette et qui glisse également, Dembélé qui frappe. Voilà la première grosse occasion parisienne en direct, celle de Ousmane Dembélé, mais voilà, le danger est repoussé par le Stade de Reims. Vous le disiez, oui, un match plutôt déséquilibré sur le papier. Le PSG qui va jouer également dans une semaine une finale de Ligue des Champions. Reims joue en ce moment sa survie en Ligue 1, un barrage aller-retour entre cette finale de Coupe de France face au Stade de Reims. Donc oui, le Paris Saint-Germain est outrageusement favori de cette rencontre et souhaitera améliorer son record dans la compétition puisque le PSG a déjà remporté 15 Coupes de France et souhaiterait en cas de victoire en remporter une 16e.
Merci beaucoup Sofiane Amazian en direct du Stade de France pour suivre cette finale entre le Paris Saint-Germain et Reims. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. 21h10 à Paris, 19h10 en temps universel.